bienvenue sur l'empreinte digitale. Dans cet épisode, je vais vous présenter les 10 livres business que je vais lire cet été. Alors l'été, c'est toujours un moment où l'activité ralentit, hein. Les sollicitations sont souvent moins nombreuses. Alors c'est une bonne période pour aller à la recherche de nouvelles idées, pour booster sa créativité ou sa productivité. Alors cette année, je vais profiter donc de cette parenthèse où mon agenda est moins chargé pour faire le plein de nouvelles idées et puis pour pouvoir aborder de nouveaux projets pour la rentrée. Alors cette année, donc, j'ai 10 livres business à lire durant ces 2 mois de pause estivale. Alors en vrac, pêle-mêle, il y a des ouvrages pour maîtriser le storytelling, pour mieux comprendre l'impact des réseaux sociaux dans nos vies, pour le meilleur et puis parfois aussi pour le pire, hein. Comment gérer son organisation, encore des biographies pour trouver des idées inspirantes. Alors je vais vous partager cette liste dans ce podcast et j'espère qu'elle vous inspirera. Alors j'ai choisi volontairement des sujets variés afin d'avoir une plus grande ouverture d'esprit. Alors ces livres, ils se regroupent autour de 4 thématiques principales. Il y a donc des biographies, du storytelling, de l'économie numérique et de la productivité ou du développement personnel au sens très très large, vous allez le voir. Alors tout d'abord des biographies. Là, je suis un bon lecteur de biographies, j'aime beaucoup ça. Pourquoi j'aime bien? Parce que j'aime ces parcours de personnes un peu hors du commun, hein. Je trouve que c'est toujours inspirant, ils ont souvent dû relever de vrais défis. Alors leur leçon de vie, ça nous aide toujours à éviter parfois des pièges ou parfois ça nous donne aussi des pistes pour emprunter des raccourcis qui conduisent à la réussite. J'avais beaucoup aimé la biographie de Phil Knight, le fondateur de Nike, et j'avais aussi beaucoup aimé celle de Rafael Nadal, hein, qui était excellente aussi. Alors cette année, j'ai 2 biographies dans ma liste. Tout d'abord, j'ai Wise Guy de Guy Kawasaki. Alors je ne sais pas si vous connaissez Guy Kawasaki, c'est une star, hein, de la Silicon Valley. Il a travaillé dans les années 80 chez Apple, il faisait partie des équipes de Steve Jobs qui ont fait le premier Macintosh. Voilà, il faisait partie de cette équipe, hein, l'équipe originale qui a fait le Mac, le premier ordinateur individuel. Et c'est lui qui va être ensuite amené à le commercialiser, à vendre l'idée du Macintosh, hein, ce qu'ils appelaient à l'époque l'évangéliste, hein, d'Apple. Il va être l'un des premiers directeurs marketing de l'entreprise. Alors aujourd'hui, Guy Kawasaki, il est chief evangelist pour Canva, hein, la plateforme de création, hein, que vous connaissez certainement. Il est aussi capital risqueur, il est entrepreneur, il est conseiller en entreprise, il est auteur à succès, il a fait plusieurs best-sellers. Son blog est l'un des plus lus au monde. Il a aussi un podcast où il livre parfois des anecdotes personnelles, c'est assez sympa. Et puis il a aussi un compte Twitter très influent, il a 1 300 000 abonnés. Alors j'ai choisi sa bio parce que j'avais envie d'apprendre de son parcours atypique. J'avais envie de me plonger dans la richesse de ses expériences professionnelles, notamment chez Apple. Je suis un grand curieux, un grand admirateur de cette époque d'Apple, les early years, les premières années de l'entreprise. J'ai vraiment envie de savoir comment il a vécu ça de l'intérieur, auprès de Steve Jobs notamment, donc je vais me plonger dans sa biographie. Guy Kawasaki, j'avoue que je ne le connaissais pas, j'ai découvert seulement il y a quelques jours, par la sérendipité, je partais d'un thème et de fil en aiguille, par saut de puce, je me suis retrouvé sur sa présentation et j'ai accroché, donc je vais lire sa biographie, ce sera le premier livre de cette liste. Alors ensuite, une deuxième bio, alors celle-ci, elle ne sera pas liée au digital, au numérique, c'est la biographie officielle d'Usain Bolt, le coureur de 100 mètres et 200 mètres. Son livre s'appelle « Plus rapide que l'éclair », voilà. Alors, c'est pas n'importe lequel que j'ai choisi, hein. C'est l'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt. Alors, moi, j'aime beaucoup, je suis très fan aussi des analogies entre le monde du sport et celui du business. Et l'exemple des grands champions, c'est toujours remarquable, hein. Il y a souvent un don, un talent au départ, évidemment. Mais souvent, ce qui fait la différence entre eux qui sont du très très haut niveau et les autres qui sont finalement du haut niveau ou des sportifs amateurs, c'est souvent leur force de travail et puis leur force de caractère. Voilà. C'est des forces qui leur permettent de résister à la pression, qui leur permettent de se dépasser pour relever des challenges et puis aller conquérir les plus belles victoires. Alors j'imagine que le parcours du Usain Bolt doit regorger d'histoires personnelles, d'anecdotes croustillantes. Ça va m'aider, je pense, à aller plus vite, plus haut, plus fort pour la rentrée. Enfin, du moins, je l'espère, hein. Voilà, le livre s'appelle « Plus rapide que l'éclair ». Je ne sais pas si je vais le lire à la vitesse de l'éclair, mais c'est pas un grand livre. C'est un peu genre format de poche. Il y a combien? Il y a peut-être 150 pages à peu près. Combien ça fait? Ah non, 300, tant pour moi. 300, mais ça se lit bien. C'est de la police de caractère un petit peu police 12 ou 13. Donc ça doit se lire en, allez, 2 jours, je pense. Grand max. Après les biographies, deuxième thématique, tout ce qui est lié au storytelling. Alors, je sais pas si vous aimez les histoires. Vous aimez les histoires, hein? Moi aussi, j'aime les histoires. Et en fait, si on réfléchit, qui n'aime pas les histoires? Tout le monde aime ça, les histoires. Alors, c'est la raison pour laquelle le storytelling, c'est un moyen tellement efficace pour faire passer un message. On est dans un monde aujourd'hui qui croule sous des flots d'informations. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. C'est ce qu'on appelle l'infobésité, contraction entre information et obésité. On est véritablement noyé sous un flot d'informations ininterrompu. Alors, le storytelling, ça nous offre, les amis, un avantage ultime, c'est celui d'attirer l'attention. Ensuite, c'est votre talent qui va faire le reste. Mais tout d'abord, ça permet d'attirer l'attention. Une bonne histoire. Alors, c'est donc une méthode efficace si vous voulez donner envie à vos lecteurs de lire vos articles de blog, à vos internautes de regarder votre vidéo YouTube jusqu'au bout, à vos élèves d'écouter votre cours, à vos clients d'acheter vos produits, etc., etc. Alors cet été, j'ai décidé de mettre le paquet hein, pour apprendre toutes les ficelles du storytelling. Donc j'ai retenu trois ouvrages de référence. Alors le premier, c'est Story Brand, les 7 piliers du storytelling de Donald Miller. Alors l'auteur, il a développé une méthode en 7 étapes qu'il appelle SB7, qui permet de structurer en fait simplement et efficacement un récit. 7 étapes. Donc tout d'abord, il y a un personnage, il a un problème, il doit rencontrer un guide qui lui fournit un plan, qui l'incite à agir pour échapper à la catastrophe et triompher. Voilà, si vous avez été attentif, il y avait bien 7 étapes. Alors c'est un canevas de base, de scénario d'une histoire, mais j'ai vraiment été convaincu par la simplicité de l'approche, et comme ce livre est un best-seller du New York Times, ça a achevé de me convaincre. Alors là aussi, il se lit bien, le texte est assez aéré, ça va se lire assez facilement, je pense, 3-4 jours grand maximum pour le lire. En complément, pour aller plus loin, j'ai mis dans ma shortlist un ouvrage de référence dans l'écriture des scénarios. Alors ça, c'est un livre que lisent beaucoup de personnes qui sont dans le cinéma. Mais pas que, aussi tous ceux qui tournent autour du storytelling connaissent cet ouvrage. C'est L'anatomie du scénario de John Truby. Alors John Truby, c'est un scénariste qui est reconnu hein, pour la télévision et le cinéma. Son livre, c'est clairement un classique. Et dedans, il explique les 22 étapes incontournables pour réussir un scénario qui captive vraiment les spectateurs. Le livre précédent, Story Brand, c'était 7 étapes. Ici, il y en a 22. Vous avez vu que c'est beaucoup plus complet. Là, on parle de cinéma, on ne parle pas juste d'un storytelling d'une page dans un article de blog. Hein. Alors, dans son ouvrage, il décortique des grands classiques du cinéma comme Casablanca d'Alfred Hitchcock, si vous avez vu ce film, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, voilà. Alors ici, je m'attaque à du lourd, hein, près de 600 pages, c'est un pavé le truc, c'est costaud. Alors par contre, je suis convaincu que la maîtrise de l'art de la narration de John Truby, ça va clairement m'aider à mieux rédiger mes podcasts, mes newsletters, ça va bien m'inspirer sur ma rédaction. Et puis aussi, ça va m'aider pour ma future chaîne YouTube, qui est en cours de préparation. Voilà, c'est mon projet pour cette année, c'est mon défi, lancer ma chaîne YouTube. L'année dernière, c'était un de mes défis, j'ai pas réussi à l'accomplir, j'ai eu vraiment trop de travail. Cette année, je suis encore dans le train pour essayer d'y arriver. J'espère à la rentrée, les amis. De toute façon, évidemment, je vous tiendrai au courant. Alors, pour compléter ma lecture sur la thématique du storytelling, pour devenir un expert absolu, ouais, j'espère, ça va être compliqué quand même, mais bon, je vais essayer. J'ai ajouté la référence incontournable des livres de narration. C'est un livre de John Campbell qui s'appelle « Le héros aux 1001 visages ». Alors dans ce livre, l'auteur présente le voyage du héros, hein, vous connaissez certainement cette méthode, voilà, c'est un parcours initiatique en 12 étapes cette fois, on a vu 7 étapes, 22 étapes, là c'est 12, c'est vraiment la base de nombreuses histoires et de nombreux films. Le voyage du héros, 12 étapes, c'est au travers de ce parcours notamment que Luke Skywalker passe du statut de simple agriculteur inconnu sur Tatooine à grand chevalier Jedi dans toute la galaxie. C'est en suivant également ce parcours initiatique en 12 étapes que le papa de Nemo va traverser les océans pour retrouver son petit poisson clown, hein, ou pilote, je sais plus, poisson clown je crois, Nemo. C'est comme ça qu'il va retrouver donc son fils à l'autre bout du monde en Australie. Et puis c'est aussi à travers de ces 12 étapes qu'un gringalet du Queens, Steve Rogers, va devenir Captain America. Alors le livre, il est un peu dense aussi, il y a pas mal de passages, notamment sur des narrations dans la mythologie. Il y a beaucoup de choses un petit peu comme ça qui m'ont l'air un peu fastidieux. Mais bon, je pense qu'avec un peu de persévérance, je vais certainement apprendre plein de choses et tirer de bonnes leçons. Donc je vais quand même m'y atteler dès cet été. Alors, troisième rubrique après les biographies et puis la partie storytelling, ce sera l'économie numérique. Le but là, c'est de prendre de la hauteur en fait. Le monde qui nous entoure, les amis, va vite, très très vite. Il y a un an, tout le monde parlait que d'une plateforme, c'était TikTok. Aujourd'hui, tous les yeux sont tournés vers l'intelligence artificielle et notamment ChatGPT. Le monde va vite, le monde numérique va très vite. Et en 20 ans, ce monde numérique, il a pris une place centrale aujourd'hui dans nos vies, au point que la plupart des millénials se connectent entre 5 et 6 heures par jour. Alors c'est vrai, hein, je l'ai fait le test grandeur nature avec plusieurs classes, hein, je suis formateur, j'ai une dizaine, vingtaine même cette année, j'avais 20 cours cette année, donc j'avais pas mal d'élèves, j'en avais plus de 200. Et j'ai fait le test grandeur nature avec eux et le résultat a dépassé mes attentes. J'ai pas mal d'élèves qui se connectaient entre 5 et 6 heures par jour. Il y en a même qui me disaient qu'ils s'endormaient et qu'ils se réveillaient avec YouTube. Voilà. Alors je me suis dit que c'était bien de réfléchir quel est l'impact de ces outils et de ces plateformes sur nos vies, sur notre sommeil, sur notre concentration par exemple. J'avais besoin d'en savoir plus, alors j'ai ajouté 3 livres dans mon panier d'été. Tout d'abord, La fabrique du crétin digital de Michel Desmurguet. Alors le titre annonce tout de suite la couleur, les amis. Michel Desmurguet, c'est un docteur en neurosciences. Il est également directeur de recherche au sein de l'ICERN, qui est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Alors selon lui, les smartphones et les réseaux sociaux notamment auraient de sérieuses conséquences sur la vie des plus jeunes, notamment. Il serait à l'origine de sérieux troubles du comportement, comme la baisse de la concentration, et il serait également responsable d'une baisse générale du niveau scolaire. Alors j'avoue l'avoir constaté aussi auprès de mes élèves. J'anime depuis, ça doit être 5 ans maintenant, cette année ça devait être ma 5e année, donc j'anime depuis 5 ans des cours au niveau MBA et Bachelor MBA, et j'ai constaté une réelle baisse d'attention, je dirais même une dangereuse baisse d'attention chez les jeunes, et notamment depuis la fin du Covid. Alors je me suis vraiment remis en doute cette année j'avais vraiment du mal à gérer les classes, je trouvais qu'ils avaient vraiment vraiment du mal à rester avec moi, j'étais pas habitué honnêtement. Alors je me suis remis en question, j'ai discuté avec mes confrères et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tout le monde est unanime sur ce point. La jeune génération, les millennials aujourd'hui, ceux qui ont une vingtaine d'années, ils sont tellement devenus zappeurs, ils ont aujourd'hui une vraie difficulté à se concentrer plus de 10 minutes. 10 minutes de cours, c'est presque trop pour eux. 10-15 minutes et après, on voit que ils commencent à partir à droite à gauche, quoi. Alors du coup, on se dit, voilà, quel va être l'impact sur leur vie, sur notre société à moyen long terme, si eux ont une baisse de concentration aussi importante, qu'est-ce que ça va donner dans plusieurs années, et leurs enfants après eux, Alors je compte sur le livre de Michel Desmurguet donc pour me donner des réponses, ou du moins des pistes de réflexion. Voilà, La fabrique du crétin digital, le livre il fait combien 450 pages à peu près, voilà, il est un petit peu dense, par contre petite police de caractère, donc celui-ci va être un petit peu plus long à lire. Mais très intéressant, sans aucun doute. Alors j'ai pris un autre ouvrage sur la même thématique pour aller un petit peu plus loin, et celui-ci est beaucoup plus facile d'approche, il fait 150 pages environ, format livre de poche, facile à lire en 2 heures, 2-3 heures peut-être. La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino. Voilà, classique aussi, si vous allez à la Fnac, vous allez le voir en tête de gondole, il se vend très bien. C'est un tout petit livre qui coûte rien du tout, par contre il est franchement intéressant de ce que j'ai pu commencer à lire. En fait, l'auteur part d'un constat alarmant qui est fait par des chercheurs canadiens qui ont analysé un poisson rouge dans son bocal. Alors vous connaissez peut-être cette histoire. En fait, ils ont analysé un poisson rouge et ils se sont rendus compte que ce petit animal a une capacité de concentration de, vous savez combien, 8 secondes. Voilà. Au-delà, il passe à autre chose. Alors c'est normal, vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose à faire dans un aquarium, donc le poisson, au bout de 8 secondes, pouf, son cerveau se remet à zéro finalement, et il redémarre sur autre chose. Capacité de concentration, 8 secondes. Bon, là où le problème est sérieux, c'est lorsque ces chercheurs poursuivent l'expérience, et ils vont faire la même analyse, ils vont étudier le comportement de la génération des millennials. Et alors là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que leur concentration s'arrête à 9 secondes. Voilà. C'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui a une capacité de concentration identique à un poisson rouge dans son bocal. Allez, ça s'arrête pas là. Les nouvelles technologies auraient également un impact sur notre sociabilité. Donc, on n'arriverait plus à se concentrer, ou du moins beaucoup moins qu'avant. Et puis, ça nous rendrait aussi un petit peu moins sociable qu'auparavant. Pourtant, l'auteur indique, selon l'Association française du poisson rouge, et oui, ça existe, les amis, le poisson rouge, il est fait pour vivre en bande, entre 20 et 30 ans, et pour atteindre la taille de 20 cm. Mais le bocal a atrophié l'espèce, en a accéléré la mortalité et détruit la sociabilité. Vous voyez le lien entre le poisson rouge et les individus? Ça a vraiment de quoi faire réfléchir. Alors, j'ai hâte de commencer ce livre. J'ai déjà mangé un petit peu en apéritif quelques pages comme ça. J'ai trouvé ça pas mal du tout. Petit livre, hein, franchement, rapide à lire. Allez, pas 2, 3, peut-être 4 heures. Mais une demi-journée, je pense que c'est lui si on est sur un bon fauteuil tranquillement, sans être interrompu. J'ai vraiment hâte de commencer. Je pense que je vais me régaler. Ensuite, j'ai ajouté, pour finir sur cette partie nouvelle technologie, j'ai ajouté un autre best-seller du New York Times, c'est The Four, les quatre, le règne des quatre de Scott Galloway. Alors, Scott Galloway, il est professeur à l'Université de New York, il a également siégé au conseil d'administration du New York Times, il a une bonne expérience du milieu des affaires aux États-Unis et il a vu arriver toutes ces quatre grandes entreprises aujourd'hui que sont Amazon, Apple, Facebook et Google. Les quatre se sont vus. Il les a vus arriver, il a vu leurs relations notamment avec les grands médias, New York Times quand il était au board, et donc il décrypte les ficelles qui ont conduit au succès de ces quatre monstres, on va dire. Pourquoi elles sont devenues à ce point incontournables et comment elles sont parvenues à contourner les règles et les lois en toute impunité. Alors le livre est vraiment intéressant. J'avoue être bon, l'avoir lu comme ça, j'ai pas pris un grand plaisir. Je m'attendais à mieux. Celui-ci, je l'ai fini, ça y est. Mais le dernier chapitre, il est vraiment pas mal. C'est là où Scott Galloway, en fait, il s'est un peu déconnecté de le thème de son livre, mais il va livrer un retour d'expérience du monde des affaires et de ce qu'il a pu apprendre en 20 ou 30 ans. Et il donne pas mal de conseils à suivre et de pièges à éviter. Alors, j'adhère pas forcément à tout, j'adhère à 90%, mais en tout cas, c'est franchement pas mal, et notamment quand on est peut-être en début de carrière, ou même quand on est encore actif, voilà, il y a quand même des bonnes choses à lire et à apprendre. Alors au final, c'est un ouvrage pour mieux comprendre le monde qui nous entoure au sens large et pour anticiper peut-être avant les autres qui sera le cinquième nouveau cavalier, donc ce mastodonte à venir. Donc ce sera peut-être TikTok, peut-être OpenAI avec ChatGPT, peut-être Tesla, SpaceX, on verra. L'avenir nous le révélera. Allez, dernière thématique, productivité et développement personnel. Alors, je ne suis pas un grand fan des livres de développement personnel. Pour moi, c'est toujours très abstrait, je n'accroche pas. Mais j'ai quand même mis dans ma liste deux ouvrages assez généralistes et pratiques. Tout d'abord, le premier, c'est La 25e heure de Guillaume Declercq, Baudin et Jérôme Dumont. Alors, ce livre ne traite pas proprement parler de développement personnel. C'est plutôt de l'organisation, en fait. Alors, c'est le titre qui a piqué ma curiosité. La 25e heure, comment travailler une heure de moins chaque jour ? Travailler moins et être plus efficace, ça fait rêver ça, non? Alors là pareil, petit livre de poche, facile à lire, combien de pages? Combien 180 pages, police de caractère, ouais ça va, avec pas mal de visuels, ça se lit très bien, j'ai commencé un petit peu, je pense qu'en 2-3 heures c'est lu, allez 4 heures en faisant une petite posté au milieu. Mais honnêtement, investir 3 ou 4 heures de mon temps pour gagner ensuite une heure de productivité par jour, je tente facilement le pari. Donc c'est parti, la 25e heure de Guillaume Declercq, Baudin et Jérôme Dumont. Allez, pour finir, j'avais commencé ma shortlist avec lui et je vais terminer avec lui. C'est Guy Kawasaki et son ouvrage « L'art de l'enchantement ». Alors, il propose dans ce livre d'apprendre à enchanter son public pour réussir un lancement de produit, pour vaincre les résistances en équipe, pour faire adhérer tout un team, etc., un projet. Alors j'avoue que comme ça, enchanter les autres, bon j'avoue que les arguments comme ça, c'était pas vraiment suffisant pour me donner envie de le lire. Mais sur la couverture, il y a une phrase, il y a une citation, et je vous la donne, écoutez bien. « Pour créer une entreprise aussi magique qu'Apple, lisez ce livre. » C'est signé Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple. Alors un tel témoignage du cofondateur de la plus incroyable des entreprises, j'ai pas hésité, j'ai acheté ce livre immédiatement, direct, c'est dans mon panier. Donc L'art de l'enchantement de Guy Kawasaki. Si Steve Wozniak dit pour créer une entreprise aussi magique qu'Apple, lisez ce livre, je fonce en espérant faire de l'empreinte digitale une entreprise aussi magique qu'Apple, les amis. Alors les amis, est-ce que vous avez lu certains de ces livres ? Si oui, je serais ravi d'avoir votre retour. Je vais vous laisser un lien tout en bas de ce podcast. Il y a un petit formulaire, voilà, si vous voulez me faire un petit retour. Voilà, avec vos conseils, dites-moi un petit peu, j'ai lu tel ouvrage, je te le recommande, j'ai aimé, ou alors j'ai moins bien aimé, etc. Celui-ci, qu'est-ce que tu penses et tout. On échange si vous voulez, je vous mets un petit formulaire en bas. Sinon, vous pouvez m'écrire aussi sur hello@l'empreintedigitale.com. Sinon, venez échanger avec moi aussi pour me dire quels sont les livres que vous avez prévu de lire prochainement, cet été. Vous avez peut-être une shortlist comme moi. Vous avez vu, la mienne, elle est peut-être un peu ambitieuse, 10 livres, mais je me suis gardé du temps cet été pour ça. J'ai vraiment envie d'en profiter pour apprendre des choses. Alors, venez me dire aussi quels sont les livres que vous avez prévu de lire cet été ou dans les prochains mois, peut-être. C'est quoi votre shortlist? Pareil, vous pouvez le cliquer en bas, il y a le formulaire. Ou sinon, vous pouvez laisser un commentaire hein, sur Spotify. Je vous ai, avec cet épisode, je vous ai mis une petite fenêtre ouverte pour que vous puissiez partager vos retours d'expérience sur ces livres ou donner votre shortlist. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi m'écrire par email sur hello@l'empreintedigitale.com. Eh bien écoutez, je serais ravi d'avoir vos retours, venez discuter avec moi, je réponds à tous mes messages, hein. Écrivez-moi, je vous répondrai de toute façon. Je vous souhaite un très bel été, je vous retrouve la semaine prochaine quand même, hein, mais je vous souhaite un bel été quand même. Et puis surtout, comme vous êtes certainement sur une plateforme d'écoute de podcast, eh bien laissez une note, un 5 étoiles et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast, voilà, ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Salut à tous, encore un bel été et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao !